dans un futur, ouais, t'as été pote avec ce mec-là. Vous êtes connu en prison, vous avez lié des liens. Ouais, mais c'est pas moi qui ai choisi le bâtiment et l'étage, en fait. C'est vous, donc forcez pas les choses, en fait. Voilà. Donc non, je t'ai pas isolé des autres détenus. Mais par contre, tu crées des liens, mais c'est des liens fébriles. Enfin, t'es toujours un peu sur tes gardes. Tu peux pas lier de... Enfin, si, tu peux lier des vraies amitiés, mais t'es un peu dans un monde où tout le monde est un peu sur les dents. Alors moi, j'ai eu zéro problème, hein, tout s'est bien passé. Le statut terreau m'a aidé, on va pas mentir. Et puis en fait, même quand les choses se passent bien, la pénitentiaire fait en sorte que ça devienne dur. Genre, à un moment, c'est ballot, mais il y avait un grand élan de motivation sportive dans la cour de promenade. Enfin, il y a de plus en plus de monde qui se mettait à du sport, et des fois c'est un peu plus sur le sport, genre à faire des allers-retours en portant les uns sur les autres. Enfin, t'as pas de poids, t'as pas de matériel, donc en fait, genre, bah, tu veux porter du poids, tu portes ton collègue sur le dos et tu cours avec ton collègue sur le dos. Mais ils commençaient à assimiler ça, genre, ah, vous faites des entraînements paramilitaires. Bah. Donc ils ont mis un grand stop. Non, mais en fait, on a deux heures pour se défouler, on n'a pas accès au sport, on n'a pas d'activité. T'inquiète pas que le mec qui veut se défouler, il se défoule. Qu'en fait, les gars, ils se défoncent pendant deux heures et après ils pioncent parce qu'ils ont plus que ça à faire pendant 22 heures, quoi. Donc faut redescendre, en fait. Quand il y a une initiative un peu genre, bah tiens, on va se réapproprier la prison et juste vivre. Non, on te casse les envies de vivre.
Je voulais juste refaire un petit point sur les différentes incarcérations qui a eu lieu dans cette affaire. Donc, 5 des 7 inculpés sont incarcérés dans 5 prisons différentes d'Île-de-France. Donc il y a Fleury-Mérogis homme, Fleury-Mérogis femme, Bois d'Arcy, Fresnes et Osny. On va savoir que Fresnes, c'est l'une des prisons les plus trash de la région parisienne parce qu'elle est très vieille et tout. Voilà, donc il y a eu entre 5 et 16 mois en incarcération en prison, dont donc le camarade Libreflot qui a fait 16 mois à l'isolement. Donc l'isolement, pour rappel, c'est l'isolement total, c'est-à-dire qu'il est seul dans sa cellule 24-24 et l'heure de promenade qu'il a, elle est seule dans une cour grillagée avec des grillages au niveau du ciel. Et en fait, il a été reconnu par plein d'associations, etc., que c'est de la torture blanche et qu'il y a assez vite plein de problèmes au niveau de la santé qui apparaissent, dont voilà, des problèmes de mémoire, des problèmes pour se concentrer, des problèmes même physiques, tachycardie, plein de choses comme ça. Et donc en fait, plus l'isolement dure longtemps, plus les conséquences sur le corps sont dangereuses. Quand il a compris après 16 mois d'incarcération en isolement que l'État reconduisait encore via le garde des Sceaux son isolement pour encore plusieurs mois, il a décidé de se mettre en grève de la faim. Et après 35 jours, je crois, de grève de la faim, il a été libéré sous bracelet électronique. Voilà, il était vraiment dans un état proche de la mort à ce moment-là, mais en tout cas, il a été libéré à ce moment-là. Les contrôles judiciaires assez stricts, donc ils ont été mis en place pour les deux qui ne sont pas allés en prison, et ils ont été mis en place aussi pour tous les autres à la suite de leur incarcération. Donc c'était des contrôles judiciaires très stricts, avec des pointages au début pour certains, je crois, deux fois par semaine. Et plus le temps passait, plus donc ça se réduisait un peu, une fois par semaine, puis une fois toutes les deux semaines, limité à des départements. Et donc si je dis pas de bêtises, en fait quasiment jusqu'au procès, en tout cas jusqu'à la fin de l'instruction, donc était fin 2022, début 2023, il y avait encore ces restrictions de département. Donc en fait, c'est même pour ceux qui sont sortis de prison, il y a encore ces obligations qui sont très strictes et qui t'empêchent d'aller là où tu veux, qui t'empêchent de rejoindre la vie que tu avais avant les arrestations, parce que en fait tu as le droit à un département mais qui n'est pas automatiquement le département là où tu habitais avant. Et puis pour ceux qui se connaissaient et qui avaient des amis en commun et qui vivaient dans la même ville, et bah l'obligation de vivre plus loin et loin de ses amis, voilà, enfin c'est vraiment des situations très compliquées.
Il y a même eu une situation aberrante, un co-inculpé qui avait le droit d'aller dans le département où résidait sa mère, si je dis pas de bêtises, mais n'avait pas le droit d'aller dans le département qui était sur le trajet. Enfin, il y a eu aussi des situations assez aberrantes avec ça, quoi.
Et donc depuis les arrestations, en tout cas, il y a eu cette interdiction de communiquer entre les co-inculpés et qui est encore maintenue aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, ça complique toute solidarité en fait, parce que ça veut dire que ce soit pour ceux qui se connaissaient avant ou même pour tous les co-inculpés, ils peuvent pas communiquer entre eux. Et en fait, ça, ben voilà, c'est hyper compliqué d'arriver à mettre une solidarité en place et à pouvoir préparer sa défense avec le procès qui arrive, etc. Et c'était assez étonnant. Enfin, on reviendra plus tard sur le procès, mais que la juge dans les condamnations ajoute, alors que le parquet ne l'avait même pas demandé, que tout le temps du sursis, c'est-à-dire encore pendant 5 ans, que les co-inculpés ont encore l'interdiction de communiquer entre eux, enfin en fait c'est super bon.
Puisqu'elle vise l'ultra-gauche. 9 personnes ont été interpellées, soupçonnées d'avoir voulu préparer une action violente.
On ne connaît pas à ce stade les couteaux et les fusils de chasse utilisés, ni le degré de préparation du groupe. Il faut également rappeler que la dernière affaire de terrorisme présumée liée à l'ultra-gauche remonte à 2008 et au groupe de Tarnac. Explosif venait d'avoir saboté des lignes TGV. Le dossier a défini en un naufrage policier. L'ensemble des accusés est en relaxé par les justices.
Salut, on est toujours là, c'est La Courte Échelle, comme tous les dimanches soirs de 19h à 20h. On rappelle le numéro si vous avez envie de nous appeler à l'antenne, qui est le 04 91 08 28 10. On vient d'écouter un podcast qui parle... Quand tu bouges la souris, ça me bouge de mon côté.
Pardon.
On vient d'écouter un podcast de Minuit Décousu, qui sont les copaines de Lyon sur Radio Canute, qui ont un super podcast. Merci fort pour tout ce boulot de récolte de témoignages et de construction du récit. On voulait aussi rappeler que du coup, la dernière personne qui... Pardon, désolé, on se reconcentre. Il y a un bouquin qui a été écrit par Libreflot qui témoigne dans le podcast, qui s'appelle « Anticiper le bruit sec des verrous » aux éditions du Bout de la Ville, qu'il a écrit pendant son incarcération en tant que DPS, si je ne me trompe pas. Et j'ai souvenir de l'avoir entendu dire dans une des rencontres que le fait d'écrire lui avait permis de reprendre goût à la vie et que la lutte lui avait permis de tenir... en tôle et dans sa cellule hyper isolée. Et du coup, on voulait juste rappeler que le bouquin existe, qu'on peut l'envoyer. Si vous nous le demandez par courrier, on vous le fait parvenir avec plaisir.
Je voulais juste rajouter un truc sur ce qu'on a entendu dans le montage. Il y a pas mal de petits extraits de médias et que je pense ce qui fait aussi beaucoup de mal et qui est un gros relais de l'oppression, on va dire, judiciaire et c'est que quand même les médias relayent en fait la parole et le langage, le vocabulaire, et qu'à distance, si tu t'arrêtes pas du tout à l'affaire, l'affaire te paraît toujours un peu véridique, la suspicion toujours paraît toujours vraie. Alors que là, comme le disait le copain la semaine dernière, le dossier est complètement vide, et les gens ne se connaissent même pas, et que les gens vont être condamnés pour faire des feux d'artifice dans leur jardin, quoi. Enfin, c'est un peu n'importe quoi.
Mmh. Exactement.
Et fuck le relais médiatique de merde.
Ah ouais. Mmh. Enfin, tout ce qui construit autour, quoi. Et aussi, ben, c'est intéressant de se dire pourquoi tout ça, ça nous concerne. Donc, on voulait vous lire un petit bout d'un brochure qui est sorti et qui explique bien pourquoi toute cette affaire-là nous concerne toutes et tous. Donc, en fait, ils disent qu'avec cette affaire, un cap était franchi dans l'extension de l'usage du terrorisme. Bon, on voit bien comme l'État utilise le terrorisme, les dangers publics, donc utilise tous ces termes-là pour donner une étiquette, mais aussi pour donner pour la répression, en fait. Donc, des personnes ont été emprisonnées, condamnées pour leurs affiliations à une idéologie dite d'ultra-gauche ou internationaliste, accusation dont il est impossible de se défendre. La répression antiterroriste est un piège redoutable. Inversement de la charge de la preuve, ce n'est plus à l'accusation de prouver ce qui vous rapproche, mais à vous de prouver ce qui est faux. Une répression préventive et une présomption de culpabilité. Développements voilà, de ces outils répressifs sur les uns permet toujours de réprimer les autres. Voilà, donc du coup, ce n'est pas qu'on utilise un outil répressif et donc ça reste sur un groupe ou sur des personnes qui sont concernées, mais c'est, voilà, ça va aussi impacter toutes les autres personnes. la répression antiterrorisme en France cible massivement les personnes musulmanes aux présumés musulmans. Donc, la séquence post-2015 état d'urgence a permis un recul des libertés fondamentales inouïes d'une rapidité sans précédent. La notion d'écoterrorisme s'est installée dans les discussions médiatiques à propos du militantisme écologique, pouvant comprendre des actes de sabotage, comme les soulèvements de la terre, sans que cela ne soit en réalité juridique. En effet, si des procès ont eu lieu, comme celui de Ternac, la relax a été prononcée en 2018, ou l'affaire de 15 juin 2021 dans le Limousin, la notion de terrorisme y a été abandonnée. Les syndicats subissent également cette répression. Dans le cas d'un mouvement de grève, des membres de la CGT-EDF ont été arrêtés et mis en examen pour cybercriminalité. Des journalistes aussi, en particulier quand Diès relève de la corruption qui œuvre au plus haut sommet de l'État, ont subi un coup de pression de la DGSI. Les soutiens de la Palestine, bien sûr, qui subissent de multiples formes de répression, conseils de discipline, blâmes, suspension, licenciement d'établissements scolaires, sont nombreux et nombreuses à avoir subi des procès pour apologie du terrorisme. Donc il suffit seulement de prononcer le nom de Palestine deux fois que... Voilà. Puis c'est autour du mouvement antifasciste d'être catégorisé comme terroriste, comme aux États-Unis. On voit bien les antifas et des politiciens français amènent ce débat au Sénat. Donc c'est ce qu'on dit au Sénat. Officiellement, la justice politique n'existe plus en France depuis 1981, lorsqu'on a cessé juridiquement de considérer qu'il existait des crimes politiques. Mais en réalité, ils n'ont jamais cessé. Des multiples dispositions antiterroristes sont réutilisées contre des militants radicaux. Baser des accusations sur les simples notes de service et des renseignements est très grave. Ces services sont protégés par les secrets de défense. Ils peuvent allègrement mentir. Ça a été toujours fait partie des techniques utilisées par les services secrets. Que la justice ne prend aucun recul ni précaution envers des accusations secrètes, alors que les inculpés dénoncent avoir force et minutie avec force et minutie les mensonges, manipulations et interventions pures de la DGSI est très inquiétant pour l'avenir des luttes sociales en France. Voilà. Donc toutes ces magouilles de notes secrets ou d'utilisation de terrorisme, menaces à l'ordre public, c'est très, très, très dangereux pour tout type de lutte et pour toutes les personnes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vous lire un peu c'est ce qu'il disait cette brochure, parce qu'on pensait que c'était intéressant de donner un point de vue de pourquoi c'est important de connaître ces affaires et aussi de les soutenir. Mmh. Donc, comment on peut les soutenir ?
Bah, en ce moment, il y a le procès en appel depuis lundi dernier, et ce jusqu'au 22 mai. Il y a plein de moyens d'être présent, notamment être présent au tribunal, prendre des notes, faire des croquis, mais aussi préparer ou amener de la nourriture, retranscrire les notes pour les publications, pas être sur le blog des inculpés du 8-12, organiser des discussions, des événements festifs dans nos villes, diffuser des podcasts, des articles, des brochures, et aussi, parce que quand même ça coûte une blindasse ces trucs-là, participer et partager la cagnotte. La cagnotte, elle s'appelle cagnotte de soutien aux inculpés du 8 décembre. On avait aussi envie quand même de vous dire que les frais, les frais en général du procès vont s'élever à minima à 10 000 euros par inculpé. Et pour info, les infos qu'on a trouvées dans la brochure, c'est que depuis le 8 décembre 2020, c'est déjà 150 000 euros qu'aura coûté aux inculpés les frais dus à cette répression cantinage, ou frais liés à la prison, frais d'avocat, frais du procès en première instance, frais de logistique. Et voilà, que l'argent, c'est aussi de la solidarité, et qu'en même temps, il y a plein d'autres façons d'aider. Voilà.
Ouais. En tout cas, moi, je trouvais ça, c'était assez cool qu'on ait envie de parler de ça, sur la question financière, comment l'État aussi met pression aux inculpés financièrement, combien ça coûte, parce que du coup, il y a le cantinage, il y a plein de choses qui entrent en compte là-dedans. Et que ouais, c'est déjà une forme... assez élevé, assez forte, notamment sur des classes plus basses qui ont moins d'argent, de mettre la pression parce que un procès, ça coûte toujours extrêmement cher à différents niveaux, quoi.
De ouf. Et grosse force aussi, ce qu'ils sont en train de passer en appel, ouais, en ce moment. Franchement, ouais. Big up.
Ouais, force à vous. Et du coup, on passe à l'enregistrement, deuxième partie. Mm-hmm. Voilà.
Et on se retrouve après pour parler de l'agenda.
Un petit agenda, ouais.
Ouais. À dans 15 minutes.
À tout de suite.
Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique.
Vous avez décrété un couvre-feu.
C'est joli, ces souvenirs sont complètement...
Jusque quelle heure ?
Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus est présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir, en fait.
Minuit.
La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, Décines, Vénitieux, Lyon.
On est encore réveillés sur Canu.
Si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux sans doute.
Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotique ou radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran.
Il est 23h23.
C'est débrancher ses oreilles du monde.
Il est 23h54.
Pour les rebrancher sur un autre.
La radio la nuit, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi.
Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire ? Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie ?
Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin.
Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est Minuit Décousu qui te parle.
On va se laisser porter dans la nuit.
Il est 3h.
La radio de nuit n'est pas mineure. Alors il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là.
De 23h à minuit sur les sondes, c'est le son du jour cette fois-ci, les manifestations qui ont lieu en ce moment à Minneapolis, là en l'occurrence devant un hôtel où dorment les agents de l'ICE. La lutte s'organise hein, de manif en manif, mais pour l'instant c'est pas joli joli ce qu'il se passe aux US.
Et cette semaine, on va faire la deuxième partie de notre émission, donc avec les inculpés du 8 décembre 2020. La semaine dernière, souvenez-vous, en tout cas, on rappelle, on peut le dire pour ceux qui n'étaient pas là, eh ben, on a interviewé donc Zvink, Klo et Maé, qui sont donc trois personnes qui ont été impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'affaire du 8 décembre 2020. C'était donc neuf personnes qui ont été interpellées par la DGSI. Pour association de malfaiteurs terroristes, un dossier monté de toutes pièces à partir de notes blanches. Donc la semaine dernière, elle nous expliquait leur arrestation, leur garde à vue au 4e sous-sol de la DGSI à Levallois-Perret et aussi du coup Zvink, qui est le seul interpellé, inculpé des trois personnes qu'on a interviewées, qui du coup a passé 11 mois à Fleury-Mérogis, surtout le statut de DPS, donc détenu particulièrement surveillé. Voilà. Et cette semaine, on continue donc du coup ce programme, puisqu'on va parler donc tout simplement en fait du procès qui est arrivé au mois d'octobre 2023. Et on va donc, on verra un petit peu avec LE le résultat de ce procès, les implications que ça a, notamment pour la vie des personnes qui ont été inculpées. Et on parlera aussi de l'appel à venir qui va arriver donc au printemps. On aura les mois précisément, j'ai oublié, mais c'est au printemps 2026.
Il est 23h05, minuit décousu sur Radio Canu.
Un climat de peur auquel le récit médiatique participe. Les lois s'enchaînent qui étendent les pouvoirs du renseignement, renforcent et généralisent les formes de surveillance en permettant notamment la collecte d'informations en dehors de tout cadre juridique.
La charge émotionnelle du terrorisme permet de justifier les mesures d'exception au nom d'un intérêt général menacé par un ennemi intérieur. Si le terrorisme est l'enjeu principal du renseignement, les mouvements sociaux deviennent également une cible. L'état d'urgence devient progressivement la norme, et c'est le profilage des personnes qui est au cœur du dispositif. Il suffit désormais qu'un policier ait des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour qu'une personne puisse être surveillée, suivie, assignée à résidence ou arrêtée.
Sauf que ces raisons sérieuses n'ont aucun cadre défini. Le storytelling policier passe par la rédaction de notes blanches, des documents qui ne permettent ni d'identifier le rédacteur de notes, ni ses sources, ni les moyens par lesquels les renseignements qui y figurent ont été obtenus. Les services de renseignement y décrivent des personnages violents, vivant dans la clandestinité, louches et donc potentiellement effrayants.
En guise d'ennemi intérieur, les flics de la DGSI inventent une menace fantôme faite de gens aux mauvaises lectures, aux mauvaises idées, aux mauvais codes sociaux, qui fréquentent de mauvais amis dans les mauvaises manifs ou les mauvais troquets. Ces notes peuvent n'avoir aucun fondement factuel ou matériel, elles construisent des fictions biographiques, mais elles sont recevables comme preuves dans les instructions du jeu du tribunal.
En peignant le militant, la militante en terroriste, l'antiterro transforme ses notes blanches en poupées de chiffon et réalise du même coup un braquage sémantique, judiciaire et politique. Le ou la terroriste n'est plus celui ou celle qui, au nom d'une cause, s'en prend à des individus à titre d'exemple dans une stratégie de terrorisation aléatoire. Le ou la terroriste est désormais toute personne qui s'en prend aux institutions comme sédiment socio-historique des rapports de force. Les faits ont disparu, c'est l'intention qui compte, quand bien même elle est impossible à démontrer.
Parfois, un juge réalise que le portrait sonne faux, que la poupée de chiffon est une menace fantôme, mais comme son boulot est de protéger les institutions, il condamne sur la base de l'intention que lui proposent les flics.
L'institution judiciaire et policière se croit forte car elle peut broyer celles et ceux qu'elle identifie comme ses ennemis, les terroriser, littéralement. Mais elle est faible car elle est incapable de défendre la démocratie qu'elle prétend incarner. Est-il encore possible de la protéger contre elle-même ?
Pour les sociologues Simon Le Roulet et Julien Long, l'application des mesures exceptionnelles prévues pour la lutte contre le terrorisme aux acteurs des mouvements sociaux est une terrorisation à trois dimensions. Premièrement, elle assujettit les personnes identifiées comme contestataires par le recours à des mesures individuelles. Deuxièmement, elle produit une confusion sémantique entre terroristes et militantes. Troisièmement, elle fait pénétrer la production du personnage du terroriste politique dans le monde judiciaire.
Les inculpés de l'affaire dite du 8 décembre ont fait face à cette triple terrorisation. C'est ce que nous raconte Klo et Zvink dans cette seconde émission que Menu Décousu leur consacre.
Entre
entre le feu et la glace, il y a nous, nos parcours chaotiques et des asiles de fous, des mauvaises graines semées aux grandes dames de leurs écoles qui nous promettent sans vergogne un avenir décapité, poiscaille charcutable. Taillable et malléable, et des flics alcooliques qui attendent que de se mettre à table. Des bâtards de cobayes, voilà ce qu'on a fait de notre sort. T'étonnes pas qu'on s'en aille ailleurs écrire le carnet de bord. Acharnement judiciaire, contrôle musclé. Croire qu'on cherche à plaire serait la thèse la plus erronée. Au milieu de ça, rien, on observe de près, de loin. Les années qui s'écoulent à cogiter comme des chiens. Les techniques sont variées, certains ont la fibre de boucher. Et d'autres opèrent en chirurgien confirmé. Il s'agirait de terrorisme et de sabotage. D'extrémisme et de brigandage. T'inquiète, ils ont trouvé le moyen de te faire taire à coup de recommandés ou de spots publicitaires. Quelques âmes charitables dans le milieu de la police ne parviendront pas à faire peser le balancier hors du vice. Alors, tu veux que je te réponde quoi? Qu'accomplir son sale boulot relève encore du bon droit. Ferme-la, pas de théorie bien pensante. Je commence à comprendre les règles de ce jeu dont ils sont partie intégrante. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte. T'es déclaré, à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée, à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules.
Alors le procès, il a eu lieu le
7 octobre 2023.
Bonjour, moi c'est Maë et comité de soutien Ardèche.
Zwink, comité de soutien Paris et inculpé aussi.
Moi c'est Clo et comité de soutien Paris qui a été arrêté aussi le 8 décembre 2020 mais relâché sans charge.
Au tribunal de grande instance de Paris, donc le nouveau grand tribunal énormissime, la tour en verre au milieu d'une esplanade gigantesque qu'il a lieu pendant un mois complet en octobre 2023. On a été nombreuses à se déplacer pendant le mois complet pour ce procès des Copen. Il faut savoir du coup déjà qu'entre les arrestations et le procès, il y a eu des années qui sont écoulées, des années où il y a déjà eu des groupes de soutien du coup qui sont formés, qui sont organisés, etc., qui ont fait des communiqués, des écrits, qui ont beaucoup aidé aussi les inculpés pour l'arrivée du procès.
Appartiennent à l'ultra-gauche selon l'expression du parquet interpellé. Et plusieurs ont violenté les services pour leur activité radicale. Si jamais cette semaine c'est explosé parce que vous avez un projet d'attentat.
Il faut déjà y entrer dans ce gratte-ciel de 160 mètres de haut, 120 000 mètres carrés de surface, droit et transparent comme la justice.
On voulait proposer, vu qu'on vient de s'échauffer, grâce au slogan lancé par les camarades, de clôturer cette session de prise de parole avec une petite session musicale. C'est une chanson qui s'appelle « Et c'est qui les terroristes ?» Vous pouvez la trouver en page 1 du carnet de chant.
Ce qui est sûr, c'est que ce grand building penche indéniablement à droite. Il faut passer un premier contrôle des sacs, puis un second avec rayon X et portique détecteur de métaux. Surveillé par des dizaines de caméras et des policiers armés de fusils d'assaut.
On était dans une énorme salle, il y avait à peu près 300 places, et à savoir qu'on était quasi salle comble pendant le mois. Bon, c'est un petit aparté, on va le dire ici, ça nous tient à cœur, j'ai l'impression. On a constaté que sur le mois, on était plus de 80% de soutien féminin, effectivement. On le relève quand même, voilà. Sachant qu'on précise, sur les 7 inculpés, il y a uniquement une personne qui est une femme et les autres sont des hommes, voilà. Il faut s'imaginer cette salle comme une pièce de théâtre. Enfin, vraiment, c'est le ressenti de beaucoup de personnes. Pendant ce mois-ci, on a l'impression vraiment d'être dans une pièce de théâtre avec, à chaque fois qu'un inculpé était interrogé sur, au centre de la pièce, debout devant son pupitre, avec en face de lui la présidente, il y avait deux assesseuses, deux procureurs et la scribe, qui est la greffière. Et derrière, on est 300 personnes, soutien et pas que. Donc il y a aussi des policiers parmi la salle, il y a aussi des journalistes. Au début du procès, on était sur une bonne trentaine de journalistes qui assistaient tous les jours. C'était ensuite, suivant les jours, ça allait, ça venait plus ou moins. Mais on était sur une bonne trentaine au début du procès, sur la fin également. Le déroulé de ce procès était vraiment, comme j'ai dit, une genre de pièce de théâtre avec la présidente qui nous donnait cette impression de maîtresse d'école. On devait se lever quand elle apparaissait, s'asseoir quand on avait l'ordre plus ou moins donné de s'asseoir. Au moindre bruit, elle nous faisait la remarque, trop de bruit, on était mis dehors. Enfin vraiment, une cour d'école gigantesque, on n'a pas le droit de manger, de faire du bruit, de rien faire, juste d'assister aux interrogatoires de nos copains-copines qui se font clairement démonter devant nos yeux. À ce moment-là, faut aussi s'imaginer que sur les premiers rangs, il y a notamment leur famille, leurs proches, et ensuite les soutiens qui remplissent le reste de la salle. Mais il faut aussi se dire qu'à ce moment-là, il y a la famille qui est sur les premiers rangs, aux premières loges de leurs propres enfants ou conjoints-conjointes de l'époque qui se font clairement interroger devant leurs yeux sur leur vie personnelle, privée, familiale. C'est d'une intensité assez dingue. On a tous et toutes le souvenir du premier copain qui est passé à la barre où il a fondu en larmes et clairement on était une grosse partie de la salle à pleurer en même temps que lui. C'est vraiment là, on s'est dit ce jour-là, qui était le premier jour, le lancement du procès, on s'est dit waouh, ça va être long et waouh, ça va être intense pour tout le monde.
Coucou, hello. C'est encore la courte échelle.
Ouais, c'est encore nous, on est là.
Et on reprendra du coup le podcast, c'est la deuxième partie du podcast sur les inculpés du 8-12 et qu'on reprendra sûrement une prochaine fois, un prochain dimanche. Mais on avait envie de faire un point agenda avant de... Enfin, bref et agenda avant de vous quitter. D'abord, on voulait parler de la marche pour Mehdi qui avait eu lieu aujourd'hui. Mehdi, c'est un jeune homme qui a été tué par des flics pour avoir eu son tel au volant et il est
ouais. Voilà. Il y a 2 semaines presque. Mm-hmm. Ouais.
Encore une fois tué par la police municipale.
Voilà, par la police municipale d'ailleurs. Ouais.
Voilà, on peut penser à ce qu'a fait Bali Bakayoko à Saint-Denis qui a enlevé quand même les armes des policiers municipaux. Mm. Je pense que c'est la première chose à faire.
Super. Il y avait une marche blanche pour lui aujourd'hui, donc on pense fort à ses proches.
Voilà. D'ailleurs, il y a toujours un appel à témoignage, je pense, que les familles... parce qu'il y a une instruction qui est quand même lancée. Et que, voilà, si jamais vous avez vu ou entendu des choses, je pense contacter la famille. Et ça s'est passé dans le 11e, si je ne me trompe pas.
Ouais, ça s'est passé dans le 11e...
J'ai très bien rue des... pardon, je ne me rappelle plus le nom de la rue. En tout cas, si vous avez vu quelque chose ou entendu, n'hésitez pas à contacter la famille.
Ouais, donc du coup, il y a eu cette marche aujourd'hui. Et
tout à fait.
Donc du coup, encore une fois, la police tue. Voilà, on a...
Ouais.
On peut pas dire plus de ça, mis à part un peu de colère, beaucoup de colère.
Ouais, ouais. Et ça refait penser exactement à ce qui s'est passé aussi avec Souel et le combat de la famille de Souel et ainsi que de SAV, Stop aux violences d'État, qui essaye de quand même arrêter cette marche en avant où les flics ont de plus en plus de droits et de plus en plus d'armes en leur possession pour violenter, faire du mal ou tuer.
Ouais.
Et du coup, essayer déjà de stopper ça, voire de revenir en arrière et retirer les armes à la police municipale paraît un bon premier pas, quoi.
Ouais.
Donc, voilà.
Du coup,
force à la famille.
Force à la famille et force à tout le personnel qui soutient la famille, aux proches. Donc, ouais, voilà, il a reçu 3 balles. Donc... voilà. Et on ne sait pas trop, la famille ne savent rien encore parce que c'était pendant la nuit, apparemment, dans un boulevard des Libérateurs, le 23 avril, dans les 11e arrondissement, la nuit. Donc, je dis parce qu'il n'y avait pas, grand monde, apparemment.
Ouais.
Donc, du coup, si vous y étiez.
Parce que pour l'instant, les caméras qui vont se déclencher automatiquement ne sont pas déclenchées chez les policiers.
Il n'y a jamais de caméra qu'un défaut, quoi.
Ouais, ouais. Donc, appel à témoignage.
On ne voudrait pas de caméra, mais au moins, s'ils sont là, moi, quand les flics ils tuent quelqu'un, pourrait être utile. Mais bon, on sait qu'après, c'est que de la merde. Ouais. Donc, force ou courage.
Carrément. Et d'ailleurs, on peut aussi rappeler qu'il y avait l'exposition de Stop aux violences d'État il y a 2 semaines qui était aussi assez intéressante parce qu'il mettait beaucoup en parallèle ce que vivent les familles et ce qu'ont vécu toutes les familles qui ont perdu un proche tué par la police. Et voilà, là, on peut juste entrevoir à travers les articles que, bah, par exemple, la famille a juste été prévenue qu'il était mort et ils ont mis du temps à dire comment, pourquoi, enfin voilà. Là, ils vont commencer à pouvoir avoir plus d'informations parce qu'il y a une enquête, enfin, une enquête judiciaire qui est ouverte, mais c'est toujours un combat et c'est assez compliqué pour les familles. Bah, il faut continuer à être debout et à se battre. Et c'est vrai que ce qu'expliquait Souel dans une autre émission, c'est que tu peux pas faire le... Enfin, ce qu'expliquait Issam, pardon, le père de Souel, dans une autre émission, c'est que tu peux pas trop faire le deuil parce qu'il faut continuer à tenir et à rester debout. Voilà,
et se battre
pour aller le plus loin possible et obtenir la vérité et la justice.
Grosse force. Et d'ici, on voulait faire un dernier petit point avant de lâcher l'antenne, un point agenda, parce que c'est samedi prochain, le 16 mai à 17h30 à la Frat, donc dans la Belle de Mai. C'est une présentation d'un bouquin qui s'appelle « 100 ans de guerre contre la Palestine, une histoire de colonisation et de résistance ». C'est écrit par Rachida Ledi et il y a la présentation qui sera animée par la librairie Transit. Ce sera suivi d'un repas en solidarité avec le peuple gazaoui via les assauts SWAT Palestine et Marseille à Gaza, de Marseille à Gaza. Voilà, apparemment le livre est super. On ne l'a pas lu parce que de toute façon il est en précommande pour l'instant, mais vous pouvez commander le bouquin en avance et l'avoir sur place ou bien en tout cas aller écouter... comment il en parle. Voilà, donc c'est la fraternité de l'appel de mai. Et on avait d'autres points agenda, mais on a un peu le temps vu que c'est pour la fin mai. On a une émission qui nous suit qui s'appelle Sur le fil. Ça va être super, restez à l'antenne. Et nous, on vous fait des gros pick-up. On pense fort fort à toutes les personnes incarcérées, toutes les personnes avec qui on est en lien. On pense aussi aux personnes qui galèrent suite avec la paix qui leur se colle au cul à la sortie. Voilà, on pense à vous et on sera là la semaine prochaine.
Force courage, et à la semaine prochaine.
Bisous, bisous.